Nous avons commencé mercredi un enseignement sur la souffrance du juste. Et nous avons dit qu'il fallait continuer cet enseignement. Nous allons faire la suite et la fin de cet enseignement. Nous avons parlé des raisons pour lesquelles les croyants souffrent. Et nous avons expliqué en profondeur que, quelle que soit la souffrance que nous avons, nous devons rester fidèles. Et il y a même un cas pratique que j'ai donné par rapport, n'est-ce pas, au comportement envers Dieu. Quand il est fâché, tu restes là. Il est content, tu restes là. Toi-même, tu es fâché, tu restes là. Tu es insatisfait, tu restes là. Tu ne pars pas ailleurs. Parce que certains, dès que ça se gâte un peu, ils cherchent le divorce. On ne divorce pas avec Dieu. Allez faire vos divorces sur tous les autres endroits. Avec le Père, ce n'est pas possible. Tu tentes d'essayer de penser seulement à ça. On ne va pas te dire. Encore que bon, on ne vous a pas encore donné cet enseignement. Ceux qui sont déjà entrés dans la maison du Père et qui osent ressortir sont frappés plus violemment que ceux qui ne sont même pas encore entrés. Donc on ne fait pas ça à Dieu, changer de route. Ressortir de la maison après avoir eu le miel, l'or, le lait et tous les autres avantages de la maison. Ce n'est pas possible. Parce que quand on parle de souffrance, nous étions en train d'expliquer cela mercredi, il est extrêmement important de comprendre que la souffrance est prévue. Sauf qu'elle est bien différente de la souffrance infligée par l'ennemi et de la manière dont on la vit. On a parlé de cela et on va juste continuer notre propos. Il existe d'autres raisons beaucoup plus positives qui peuvent, n'est-ce pas, expliquer les souffrances du croyant. Parce qu'on a parlé des raisons négatives, les raisons pour lesquelles les croyants souffrent, ce que le diable leur fait, le besoin de justice est différent. En fait, le croyant a en lui la pensée du Christ. Donc, être chrétien, il faut bien comprendre cela, ce que cela signifie. Ça signifie être en Christ, être avec lui. Ce qui fait qu'en conséquence, nous avons part à ses souffrances. Prenez 1 Corinthiens 2, le verset 16, 1 Pierre 2, le verset 21, et vous allez comprendre l'esprit de cette parole. Tout comme Christ a pleuré sur la ville corrompue de Jérusalem et son refus de se repentir et d'accepter le salut, nous pleurons sur l'humanité pécheresse et perdue. Les deux passages que j'ai donnés, s'il vous plaît, qu'on y aille. 1 Corinthiens 2, le verset 16, 1 Pierre 2, le verset 21.
1 Corinthiens 2, verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Amen.
Avoir la pensée du Christ, c'est avoir la grâce de comprendre les choses selon son angle de vue, selon sa compréhension à lui. Bien entendu, il faut déjà être né de nouveau pour cela. Il faut être dans la maison du Père pour avoir la grâce de connaître sa pensée. Ceux qui n'ont pas la grâce d'être nés de nouveau ne peuvent pas connaître la pensée du Christ. Je tiens à dire quelque chose d'important par rapport à cela. Il y a beaucoup d'églises qui créent de la division sur la base de cette compréhension de naître de nouveau. C'est-à-dire que quand tu es dans l'église, toutes les autres personnes sont Satan. Mais on se connaît. Dès que tu n'es pas dans l'église là, tu n'es pas chrétien. C'est pourquoi nous on a la grâce de passer au-dessus des débats religieux et de nous préoccuper uniquement de la relation à Jésus-Christ. Ne collez pas les étiquettes aux gens. Ah voilà, celui-là. Son église s'appelle quoi? Ils sont pentecôtistes. Ils ne sont pas les chrétiens. On les a baptisés comme nous on baptise chez nous. Non. C'est d'ailleurs écrit sur ton front pour lui. Non chrétien, non. Parce que tu n'es pas dans son église à lui. C'est écrit sur ton front. Pain. Faites très attention de coller des étiquettes aux gens. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La religion ne sauve pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La religion ne sauve
pas.
Et ne soyez pas des personnes qu'on a converties à une religion. Parce que c'est l'une des choses qui cause des souffrances ici dehors. Beaucoup de gens ont été convertis à la religion au lieu d'être convertis à Dieu. Ils ont une relation très forte avec la religion. Si forte qu'ils en tremblent. ils connaissent rien à Dieu. Ils connaissent les étiquettes aux gens. Donc, on a la pensée du Christ quand on a la grâce d'avoir l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint nous parle, il y a un renouvellement de l'intelligence. L'intelligence se trouve dans l'âme. On rentre dans la tripartition, esprit, qui contient la communication à Dieu, la conscience de Dieu et l'intuition, c'est-à-dire la capacité à avoir une information sans investigation. Ça, c'est l'esprit. Maintenant, vous avez dans l'âme l'intelligence, vous avez dans l'âme les émotions, vous avez dans l'âme la volonté. Lorsque quelqu'un reçoit l'Esprit Saint, il y a un renouvellement de son intelligence. Au lieu que l'âme et le corps fassent la guerre à l'esprit, l'âme et le corps se soumettent à l'esprit. C'est ça le bon alignement. Est-ce que vous comprenez donc comment on peut avoir la pensée de Christ? Ce n'est que parce qu'on reçoit l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit Saint, que je définis comme étant Dieu disponible. Et à partir de là, on peut comprendre les choses avec l'intelligence divine. Autre piège dans lequel il ne faut pas tomber. Ce n'est pas parce que vous comprenez certaines choses que vous savez tout. Parce qu'il y a beaucoup de gens, comme l'Esprit Saint leur parle, ils sont devenus des savants, ils sont devenus Dieu. Oui, Dieu. J'ai vu cette infinité chez des apôtres, des prophètes. À plus forte raison, les Nyama qui viennent seulement naître là. Comme l'Esprit Saint lui parle, il est Dieu, une fois. C'est une infinité. Dieu, si tu es capable de cerner Dieu, c'est que ce n'est plus Dieu que tu as cerné. C'est impossible. Il y a une logique là-dedans. Quand tu as la prétention, quel que soit ton rang sur le plan spirituel, de connaître Dieu, tu mens. Tu te mens et tu mens aux gens. Parce que nous ne sommes tous que des instruments. Un instrument joue une partition. Pas plus. Il est impossible, je dis impossible, que tu connaisses les plans de Dieu de façon parfaite. C'est même impossible dans ton propre ministère, à plus forte raison quand c'est la vie des autres. Je dis que même dans quand tu es patron, tu ne peux pas maîtriser ce que Dieu a planifié. Tu joues la position qu'il t'a donnée. Donc quand je vous préviens, je suis toujours en train de vous prévenir, ça fait des mois que je vous enseigne, et j'attire votre attention sur le fait que quand on a reçu l'Esprit Saint, ce n'est pas l'humilité dont je parle. C'est la prudence dont je parle. Et le bon sens. Il faut être prudent. Même si Dieu te parle, ça ne veut pas dire que tu as la sagesse divine. La connaissance infuse. Si tu veux maîtriser toutes les formes de théologie, tu n'as qu'une partition, une infime compréhension de la réalité selon Dieu. Donc, Dieu, et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, parce que beaucoup de personnes ont des dons spirituels qui s'allument ici, Dieu ne te fait savoir que ce qu'il veut que tu saches par rapport à la partition qui est la tienne.
Amen.
Amen là est timide.
Amen.
Donc, avoir la pensée de Dieu, c'est avoir une pensée de Dieu sur un sujet précis, un après l'autre. Ne dites pas que bon, l'envoyé a dit que comme j'ai reçu l'Esprit Saint me parle. Mais t'as moi, c'est tout. Il y a une quoi. Faire attention à l'égarement. Je vous ai donné un enseignement ici sur l'apostasie personnelle. Ça fait partie de l'apostasie. C'est pourquoi il faut toujours être prudent. L'humilité est dans la dimension où on garde pleinement conscience de ce que l'on est, un instrument. Là, c'est l'humilité. Parce qu'avant même d'entrer à l'humilité, il faut avoir des outils qui permettent de comprendre le pourquoi de l'humilité. Parce que le sujet d'aujourd'hui est la souffrance. On va aller en profondeur sur certaines choses. Il n'en demeure pas moins que je ne pourrai pas rater l'occasion de vous donner quelques astuces de temps à autre. Il y a autre chose qui a été dit, c'est que Christ a pleuré sur la ville corrompue de Jérusalem. L'expression pleurer, quand on la voit en grec, ce n'est pas comme vous. C'est se lamenter. Hein. Vraiment, qu'il pleurait pas un peu. Parce que quand on dit pleurer en français, là, ce n'est pas assez représentatif de ce que veut dire pleurer en grec. Christ pleurait, pas seulement dans sa dimension d'homme, mais dans sa dimension de Dieu, connaissant le cœur de ce peuple-là. qui n'a pas eu la grâce de se repentir et de comprendre qui leur a été envoyé. Ils voyaient leur perdition. Donc, au sein des souffrances qu'il endurait pour la cause de Christ, Paul cite son souci quotidien pour les églises qu'il avait fondées. Les préoccupations de Paul, on les voit dans 2 Corinthiens 11, verset 23 à 33. On va pas lire, vous gardez ça. 2 Corinthiens 11, verset 23 à 33, à 32. Vous allez lire ça tranquillement. Mais il dit quelque chose. Qui est faible? Que je ne sois faible. Qui vient à tomber? Que je ne brûle. 2 Corinthiens 11, le verset 22, 29. Une telle angoisse pour ceux que nous aimons en Christ devrait faire partie intégrante de notre vie. Pleurer avec ceux qui pleurent, rappelle Paul. Romains 12, le verset 15. Il précise que le fait de partager les souffrances de Christ constitue une condition nécessaire pour être glorifié avec lui. Ça encore, c'est avec Romains 12, Romains 8, le verset 17. Nous devons remercier Dieu du fait que, puisque nous souffrons avec Christ, nous serons également consolés par lui. Lisez 2 Corinthiens 1, le verset 5. 2 Corinthiens 1, le verset 5.
Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Amen.
Amen. C'est un message rassurant parce que si vous êtes persécuté à cause de votre foi, vous devriez quand même voir que ce n'est pas gratuit. Vous allez être persécuté, mais vous aurez une récompense parce que Dieu y veille toujours sur vous. Et je vous ai dit, de par la relation personnelle que j'ai à Dieu, que jamais je ne me suis retrouvé en difficulté sans qu'il me démontre qu'il est là pour me soutenir. Chacun d'entre vous doit avoir cette confiance-là. Bonnard a parlé de la foi. C'est ça la foi. J'ai la foi, la ferme assurance, la conscience, la confiance de ce que, quelles que soient les difficultés que je traverse, Dieu est avec moi et Dieu me soutient.
Amen.
Vous êtes sûr que vous avez compris ce que je viens de dire?
Amen.
Pourquoi le Amen est timide comme ça?
Amen.
Que signifie Amen? Vous ne voulez pas avoir le soutien de Dieu dans vos vies? Vous avez fait recommencer à m'exclamer comme à l'ouest. Hein? Que parle pas. Vous savez que mes préférés, c'est les Bamleke, même quand je ne comprends pas ce que ça veut dire. Vous savez que Bamleke n'a pas de signification scientifique. C'est une paresse terrible qui a fait qu'on appelle tout un peuple Bamleke, alors qu'ils sont très variés. Alors, Dieu lui-même peut utiliser la souffrance de notre existence comme catalyseur pour notre croissance et notre transformation spirituelle. Il faut avoir conscience de ça. Et c'est très important parce que quand vous marchez avec Dieu, ne croyez pas que parce que vous êtes avec Dieu, tout va être lisse, plat. Il n'y aura jamais d'obstacle. Le monde est parfait. Je surfe seulement sur la joie et le bonheur. Qu'est-ce que c'est romantique? Non, c'est que vous ne comprenez pas la marche avec Dieu. Il doit avoir les épreuves, il doit avoir les obstacles, il doit avoir des difficultés. Mais toutes ces difficultés-là, qui sont prévues par Dieu, ont pour effet les élévations.
Amen.
C'est comment avez-vous aujourd'hui?
Amen.
Je sens qu'il faut que je cherche le foie maître.
Amen.
Comme on a créé un mot ici aujourd'hui. Comme ça, je ne vais pas évaluer la foi déjà. De savoir quel est le niveau de foi et de conviction par rapport à ce qu'on est en train de leur dire. Triste sur quoi? Où me mets-je? Ils me regardent en me faisant tous les yeux doux. Hein? Que le Père, c'est vrai que tu pars jusqu'à là-bas en Amérique. Hein? Bon. On va fêter un peu avant la partie, non? C'est pas triste. Il y a quoi? Tout ça, c'est le service à Dieu. Vous avez les gens comme Bonnard qui sont capables de néologisme. S'il n'y avait pas l'option là que je parte, si vous allez découvrir un mot comme foi, mais alors, vous ne voyez pas, vous allez vous enrichir. On a de voir plutôt les perspectives d'innovation, les étincelles qui vont naître. Alors, le premier aspect, n'est-ce pas, qui est lié à la souffrance de notre existence comme catalyseur, n'est-ce pas, pour notre croissance, c'est que Dieu utilise souvent la souffrance pour amener son peuple égaré à se repentir de ses fautes et à renouveler sa foi et à lui faire, n'est-ce pas, confiance. Nous devons confesser les péchés que nous connaissons et examiner notre vie afin de veiller à ce qu'il n'y ait rien qui puisse déplaire à l'Esprit Saint. C'est très important d'avoir cette préoccupation-là. Deuxième élément, Dieu utilise parfois la souffrance pour éprouver notre foi et pour voir si nous lui sommes vraiment fidèles. Il a permis à Satan, par exemple, d'affliger Job parce que il voulait éprouver la foi de son serviteur Job. Pour ceux qui veulent avoir des références, il n'y a pas besoin qu'on lise ça. On sait ce qui s'est passé. On a déjà parlé de ça ici. Vous avez Job 1, le verset 6 à 12. Job 2, le verset 1 à 6. Vous avez ces éléments-là. Allait-il rester fidèle à son Dieu? Ou bien le maudit? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Et c'est même très facile à identifier dans des éléments simples comme les programmes de prière. On a parlé de ça tout à l'heure. On vous donne les programmes de prière, les conseils qui vont autour. Il y a un couple qui commence, les problèmes commencent avec moi quand je dis que bon, vraiment pour sortir de tout ce que vous avez là, 40 jours sans sexe, c'est tel s'esclave que DORTA. Là, je viens plus l'envoyer. DORTA. Là, c'est les problèmes que tu nous cherches. Que toi, que le mignon là, on a refusé ça pendant 40 jours. Là, il refuse que ça vienne de Dieu. Vraiment, ton programme de prière, là, n'est pas bon. Et ça, c'est quand je suis en face, hein. Quand ils ont parlé, ils commencent à me maudire. Vraiment, il faut même douter du fait que le gars soit envoyé de Dieu. Qui vient de sortir un programme violent comme ça, il dit même de prier à minuit. Ça, c'est suspect, hein. Pourquoi on t'a prié même à minuit, là? Hein? C'est même quoi? Dès qu'il y a une petite difficulté, ils maudissent l'homme de Dieu. Mais quand tu maudis l'homme de Dieu, c'est que tu maudis Dieu. Job, le diable lui a tout pris. Il a seulement dit, tu prends tout, tu ne touches pas son âme. Tu ne touches pas son cœur. Job pouvait dire que c'est le Dieu que je sers là. Il me laisse les ulcères comme ça. Il ne guérit pas ça. Il laisse mes enfants meurent. Je perds toutes mes richesses. Job a tout perdu, hein. C'est énorme ça. Mais quand Job a passé l'épreuve de la fidélité, dans les débats même les gens, parce que c'est un livre politique, le livre de Job. Vraiment, il faut lire ça avec le décodeur. Job a eu des discussions avec ses amis, mais il est resté fidèle et dit que de toute façon, Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas mauvais, etc. Quand Dieu a vu que Job lui est resté fidèle malgré des souffrances atroces et innommables. Son cœur était rempli de joie. Il a dit que je te donne le double de tout ce que le diable t'a pris. Job était quelqu'un de riche. Il a tout perdu. Dieu lui a donné le double de toute la richesse qu'il avait perdue. Donc c'était un examen. C'est une épreuve. Et beaucoup d'entre vous se retrouvent dans ces épreuves, ne réalisent pas qu'il s'agit de cela. Ils se disent seulement que je dis. Le gars nous avait seulement trompé ou quoi? Les deux ou trois premières semaines, là, moi, je sentais les changements. J'ai commencé à voir que ça va bien. L'argent même tombait, même si je refuse de témoigner. Mais, pourquoi subitement il y a des difficultés? Des difficultés comme ça. Il nous a trompés. Hein? Il nous a vraiment. Peut-être que Dieu n'est pas là-bas. Le gars doit avoir une écorce qu'il utilise. Ou bien, il est allé au Nigeria, là-bas, on donne ça. Ou bien au Bénin, il a fait le voyage et il ne nous a pas dit. Ou bien il était au Ghana. Un truc simple qu'il faut reconnaître, une épreuve. Parce qu'il faut passer l'examen. Tu ne vois pas qu'il faut. Et c'est une erreur de croire ça. Accepter les épreuves parce qu'elles sont voulues par Dieu. Car elles permettent entre autres de démontrer à Dieu votre fidélité. Amen.
Amen.
Voilà. Et je souhaite que votre réussite soit aussi comme la réussite de Job. Comme ça, là où Dieu vous a trouvé, il vous accorde le double de ce que vous aviez perdu.
Amen.
Il y a beaucoup de gens ici sur qui je vois l'argent, mais je ne dis pas. Parce qu'il faut qu'ils passent les examens. Il y a des gens qui sont stressés dans ce ministère à cause de l'argent. Ils sont nombreux. Et ils se ressemblent beaucoup à ce niveau. Je vous dis, il y a plein de gens ici. Dieu a prévu qu'ils vont avoir beaucoup d'argent en mon absence. Elle me regarde avec plus d'intérêt. À condition qu'il te rende compte que mon absence est une épreuve à passer. C'est-à-dire que c'est quand l'envoyé n'est pas là qu'on sent que tu es plus assidu dans la parole, que tu respectes ton programme de prière, tu écoutes les enseignements, tu payes les dîmes et les offrandes normalement. Comme ça, le temps qu'il traverse encore dans le ventre de l'avion pour revenir ici, toutes tes grâces se matérialisent seulement. Et le blague pauvre.
Je
connais vos dossiers. Parce que vous tous, vous avez remarqué seulement que ah, vous êtes en train de rajeunir tous. Chacun voit vraiment, ça va bien. Je dors bien, je ne fais plus les cauchemars. Vraiment, mes problèmes se sont arrangés. Vraiment, après bien, n'ai pas encore eu l'argent comme je veux. Hein. Mais, tu as déjà vu un arbre pousser en un jour, trop.
No.
Vous avez déjà vu ça?
No.
Là où tu vois, ça fait que c'est la sorcellerie. L'arbre prend un certain temps pour grandir, pour maturer et pour avoir des fruits. Même les fruits là grandissent graduellement et ils commencent à mûrir. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont très tolérants envers le diable. Le diable les charcute de tous les côtés. Il leur vole les enfants, leur vole la santé, leur prend les voitures, leur prend les terrains, leur vole les étoiles. Il n'a pas de problème quand ils sont un diable, ils sont un vrai patient. Bien qu'ils sont un Dieu, ils sont un patient. C'est comment non Dieu? C'est vite. C'est une erreur. Pour que vous puissiez grandir dans la marche avec Dieu, vous devez accepter les épreuves de souffrance. Je dis bien les épreuves de souffrance qui sont bien différentes de la souffrance que le diable vous inflige quand vous êtes entre ses griffes. Il y a des tribulations que l'on a quand on est avec Christ. Elles sont bien différentes des souffrances que l'on a dans l'esclavage. Bien différentes. Parce que quand tu es dans les tribulations, parce que tu es en Christ, il y a une différence nette d'abord parce que Christ lui-même te soutient. Il ne te laisse pas. Il te dit des choses, il fait des choses, il te protège. Qui vous a dit que quand vous êtes en sécurité, ça veut dire que vous pouvez plus souffrir? 99,9% des gens dans ce ministère de la sécurité. Ils giflent même les démons même en temps de sommeil. Ils n'ont plus peur de rien. Ils savent appeler la puissance de l'Esprit Saint, etc., etc. Mais est-ce que ça veut dire que les épreuves sont terminées?
Non.
Les épreuves doivent se passer normalement. Et vous devez passer l'épreuve de fidélité qui fait partie des épreuves.
Amen.
Au lieu d'être certains, on appelle ça quoi? Les enfants clignotants. Parfois ça donne, parfois ça ne donne pas. Parfois ça donne, parfois ça ne donne pas. Et il prie parfois. Quand tu lui demandes, ma fille, tu as prié? C'est mimi, non? C'est difficile, hein, papa. Que quoi? Vraiment, je dorais. J'ai trop sommeil à l'heure là. Et que chaque fois que tu fais ça, le diable applaudit. Parce que tu gardes la porte ouverte. D'autres me disent que c'est à 6h. Hein, le sommeil est sucré à l'heure là, papa. Mais parfois je prie à 18h. Ça ne suffit pas. Quand il finit à dire un truc comme ça, il te regarde. Ça ne suffit pas.
Quand tu demandes, tu as lu les enseignements depuis combien de temps?
Ah! La dernière fois, c'était il y a 2 mois.
Dans la fidélité, il y a la persévérance. Mais de toute façon, on ne va pas développer ça aujourd'hui. Nous restons sur la souffrance du juste. Vous avez donné la référence de Job 1, le verset 6 à 12, ainsi que 2, le verset 1 à 6. Nous avons montré l'enjeu qu'il y avait derrière. Et quand vous voulez voir, n'est-ce pas,
la dimension de fortification, vous prenez Deutéronome 8, le verset 3, et 1 Pierre 1, le verset 7. Nous devons prendre conscience du fait que ce qui a de véritable dans notre foi aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est une promesse ferme qui est faite dans la parole. Prenez 1 Pierre 1, le verset 7. Lisez s'il vous plaît.
Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra.
Amen.
Amen.
Très bien, c'est une promesse faite par Dieu. Vous savez que Dieu n'a qu'une parole. Dieu utilise la souffrance non seulement pour fortifier notre foi, mais aussi pour nous aider à croître en Christ et dans sa justice. Selon Paul et Jacques d'ailleurs, Dieu veut que, à travers la souffrance, nous puissions apprendre la patience. Vous avez entendu ça? Dieu veut qu'à travers la souffrance, nous puissions apprendre la patience. Lisez Romains 5, le verset 3 à 5. Romains 5, le verset 3 à 5. Ainsi que Jacques 1, le verset 3. Verset 3 à 5.
Bien plus, nous nous glorifions non dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen.
Amen. Vous voyez la relation entre la souffrance du juste. Lorsqu'il tient face à la souffrance, il se raffermit dans la persévérance, il s'affermit aussi dans la patience, qui sont des piliers très importants dans la marche avec Dieu. Si vous voulez que tout soit facile, alors passez vite vos examens. Empressez-vous d'apprendre encore mieux la parole, de vous soumettre à la parole, d'obéir à cette parole. Ainsi, vous allez voir les choses et les épreuves passer très vite. La question n'est pas le temps en réalité. La question est le temps que vous mettez à obéir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le temps que vous mettez à obéir. Lorsqu'on dit à quelqu'un, par exemple, enlève de ton cœur la rancune. Je prends les gens qui ont la médaille d'or de la rancune, les femmes. Elle aime garder là. Et s'en vanter même. La femme là, ce qu'elle m'a fait, papa, elle va me sentir tant que je rentre pas ça. La parole dit que vous ne pouvez pas être pardonné si vous-même vous ne pardonnez pas. N'est-ce pas?
Amen.
Bien. Quand vous refusez de pardonner, vous croyez que vous allez garder qui prisonnier. Et ce qui est grave dans cette affaire, c'est que vous augmentez vos propres souffrances. Celui qui est rancunier a toujours le cœur chargé de mauvaises choses, au lieu d'avoir le cœur léger. Et il y a d'autres qui échouent quand on dit que humilie-toi, va demander pardon. Quoi? Moi? Son moi est très long. Il ne dit pas moi, il dit moi. Moi, aller demander pardon à la femme là. Non, laisse que sauf sur ça. Alors que Dieu a prévu que dès que tu acceptes, il n'engage. Dieu n'attend pas que vous soyez parfait pour vous bénir. Dieu n'attend pas que vous soyez parfait pour vous nourrir. Dieu n'attend pas que vous soyez parfait pour vous illuminer. Il n'attend pas que vous soyez parfait pour vous faire croître. Il n'attend pas que vous soyez parfait pour vous donner une grâce. Quand Dieu dit pardonne, tu dis jamais. Tu viens de perdre un cadeau qu'il avait royal, qu'il avait prévu. Il était en train d'apporter ça comme ça. Que hey, si ma fille accepte de pardonner, j'accélère sa vie professionnelle là brutalement dès demain. C'est souvent du tic au tac. Quand on dit que va demander pardon à ton père, hein? Moua! Avec ce qu'il m'a fait, je ne laisse pas. Dieu a prévu que dès que tu dis pardon, tu acceptes le pardon, il gagne un procès pour toi, où le diable t'avait tenu. Parce que le diable est un accusateur. Je vous ai déjà lu le passage d'Apocalypse, n'est-ce pas? C'est 12-10, n'est-ce pas? Il est toujours en train de nous accuser. Or, parfois, il suffit d'un petit levier comme ça. Dieu utilise ça. Il lui arrache ce qu'il voulait garder contre vous. Demande pardon. Jamais. Pardon. Jamais. Tu cales là. Tes souffrances augmentent. Mais qu'est-ce qu'on entend chez toi? Vraiment, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? J'ai interdit la question là dans ce ministère. Même en pensée. J'ai interdit aux gens de réfléchir comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Tu veux qu'on sorte ton dossier. Si on tourne ton dossier, maman va t'enterrer directement. Rien que le genre de blasphème que vous sortez souvent de vos bouches. Quelqu'un demande que qu'est-ce que j'ai fait à Dieu. Il y a d'autres qui sont chiches comme... Tu mets un petit cadeau à ta mère. Non. C'est bon. Il calcule. Soit gentil envers ta grande soeur. Non, genre, quoi? Est-ce que moi-même j'ai bien mangé? D'autres, ils sont mariés. Là, souffre-douleur, c'est leur femme. Il veut venir le soir trouver à manger, bonne qualité, tout ça. Mais il a donné la ration de 1500. Quel exploit! Avec 1500 dans le Cameroun d'aujourd'hui, elle va bien préparer. Et vous allez manger. Ça, c'est la sorcellerie à plein jour. Mais vous croyez que la sorcellerie commence par moi? La sorcellerie est un mode de penser. C'est d'abord une façon de penser avant le comportement. Tu laisses 1500 et là, tu dis que tu as trop fait parce que hier, tu as laissé 800. Je connais vos dossiers. Je connais vos dossiers. Donc, il faut vraiment avoir conscience de certaines choses. Les épreuves diminuent. Elles durent en fonction de votre capacité à obéir à la parole. La compréhension rapide que vous avez de la pratique qui va être la parole. Le truc n'est pas d'être proche de la parole. L'enjeu véritable est de faire un avec la parole. Je vous ai déjà dit ça. N'est pas dit d'être proche de la parole. Il faut faire un avec la parole. En vous rappelant que Dieu considère qu'on l'aime uniquement lorsqu'on met la parole en pratique. Amen. Si tu veux, maîtrise toute la Bible, récite-la. Tu ne la mets pas en pratique. Dieu va te regarder en disant que go for Chidon et reste bien là-bas loin. Quand vous parlez sur le pigeon, vous ne savez pas comment aussi j'entends. Donc la souffrance est due à l'ignorance. Quand tu as la connaissance de la marche avec Dieu, tu as la connaissance de la parole, une compréhension pratique de la parole, tes souffrances ne peuvent jamais durer longtemps. Ce n'est pas possible. Quand tu as compris que tu es avec Dieu, quelles que soient les injustices que tu subis, tu lui fais totalement confiance. Et tu sais que de toute façon, ce n'est qu'une épreuve. Donc, il n'y a rien de grave derrière. Amen. Amen, là, est timide.
Amen.
Ça fait que tu as le bon cœur dans la persévérance. Tu as le bon cœur dans la patience. Tu sais même pourquoi tu vas tenir. Parce que tu as totalement confiance en Dieu. Et tu as conscience de ce que même dans l'épreuve, il marche à côté de toi. Il marche avec toi. Et plus précisément, il est devant. Et tu le suis.
Amen.
Jésus-Christ est devant et nous sommes les suivants.
Amen.
Ça n'a jamais changé. Lorsque le peuple d'Israël est sorti de la captivité, n'y avait-il pas un feu devant? Dieu était, il y avait un ange qui était devant. Il y avait la nuit, il y avait le feu. La nuit, c'était le feu, pour que les gens voient. En journée, la nuit. Dans le peuple d'Israël, il doit avoir un privilège sans précédent. Dans l'histoire de l'humanité, on n'a plus eu une telle aventure. En plein désert, ils avaient la climatisation. Attends, c'est ça que vous n'aviez pas compris. La nuit au-dessus du peuple, c'était la climatisation. Tout était climatisé. Ils marchaient niangalement, tant, chantait. Voilà, on a la clim. La nuit, elle est protégée des rayons du soleil, de la chaleur brûlante. C'est une expérience sans précédent. On n'en a plus jamais eu une autre. Et c'est ce peuple-là qui a vu la manne tomber du ciel. Donc, Jésus-Christ est devant. Tu suis seulement. Même si c'est dur, tu suis seulement. Même si tu pleures, tu suis seulement. Même quand c'est ténèbres, tu suis seulement. Même quand tu ne comprends pas, tu suis seulement. Je voulais ajouter, même quand tu n'es pas d'accord, on ne te demande pas si tu es d'accord ou pas. Tu suis seulement. Je vous ai déjà dit que dans la marche avec Dieu, ce n'est pas la démocratie, c'est le libre arbitre. Ce n'est pas la même chose. Il y a une grosse différence entre démocratie et libre arbitre. Dieu te montre deux voies. Lorsque Bonnard parlait tout à l'heure, il a montré deux voies. Je peux même simplifier. Dieu te dit ici, là, c'est la lumière, là-bas, c'est les ténèbres. Choisis. Tu commences à dire que, mais papa, il y a les couleurs jaunes, les couleurs vertes, les couleurs... On t'a demandé les couleurs. On t'a dit de choisir entre la lumière et les ténèbres. On va débattre sur les couleurs après. C'est toi qui as coulé la couleur, là. C'est moi qui ai créé ça. Tu n'as rien créé. Choisis. Tu es libre. Je ne peux pas faire le choix à ta place. Le libre a dit, c'était que... Et vous allez remarquer ça dans les comportements de tous les hommes de Dieu. Il ne peut pas te forcer la main, il te dit fais telle chose. Fais si tu veux. Ça te regarde là-bas. Il va te convaincre de son travail. Il va faire ce qu'il peut pour te convaincre. Mais en fait, ce n'est même pas lui. C'est l'Esprit Saint qui travaille en lui. Nous ne sommes que des instruments d'enseignement. Tu ne peux pas convaincre une personne si l'Esprit Saint ne te convainc pas à convaincre cette personne. Et si l'Esprit Saint ne s'implique pas à convaincre cette personne. Il y a dans certaines familles ici, certains qui ont la grâce de connaître Dieu. Mais ils ne savent pas comment on convainc les autres. Ils pensent que c'est en faisant la force. Vraiment, Rebecca, tu es trop têtu. Depuis que je te parle de Jésus-Christ, tu n'écoutes pas. Et que c'est un argument. Tu demandes à l'Esprit Saint de transformer son cœur, de lui ouvrir les yeux. Au lieu d'entrer dans les engueulades frontales, parce que tu n'as pas compris que le combat est spirituel. Et tu ne commences pas à lui coller les étiquettes que, en tout cas, viens à mon église, hein, parce que moi je suis fatigué. Tu es un païen. C'est un argument. Vos souffrances vont diminuer au fur et à mesure que vous aurez compris cette logique-là, ce processus. L'appropriation de la parole selon Dieu, la compréhension de la parole selon Dieu, la mise en pratique de la parole selon Dieu. Ce qui fait que les épreuves sont faciles à passer. Les éléments d'endurance deviennent faciles à accepter à cause du cœur qu'on a. Quand je parle du cœur, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes pendant une épreuve. C'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes face à une difficulté. Ce sont les pensées que vous avez. Je vous ai dit ici que la prière et le jeûne ne valent rien si le cœur n'y est pas. Si tu veux, tu pries même pour 300 jours sur 365. Dieu va écrire devant ton bulletin concernant une de prière. Zéro sur 20, ou mauvais cœur. Dieu m'a dit ça un jour, que vous croyez que vous écrivez, on écrit plus que vous au ciel. C'est pourquoi le Seigneur m'a amené à prendre cette décision ferme, que dans ce ministère, que les gens ne changent plus pour la prière. Parce qu'il les attend à changer de comportement. Ils se disent que si on est dans la prière d'une semaine, ça va arranger les choses. Et puis quoi? Laisse la femme du voisin, tu ne veux pas. C'est un programme de prière qui va changer ça. Ok. Le Seigneur a vraiment insisté à juste quand même dire que vraiment c'est bon comme ça. Dis-leur qu'ils ont un seul programme de prière qui reste à un seul programme de prière. Là où je les attends, c'est le comportement, le changement de cœur, le changement de comportement, le changement de mentalité. Parce qu'il y en a qui viennent souvent me voir, je suis souvent mort de rire ici quand je reçois les gens. Parfois, elle m'éclate de rire parce que je suis pas en train de passer. Moi, je ne peux pas sortir vos dossiers, mais en même temps, ne me cherchez pas les problèmes. On te dit que l'est de gars-là. Non, ce n'est pas parce qu'il est l'est. Vous savez que je suis contre les débats de l'est. C'est une vision subjective, la l'est. Et encore que la beauté selon Dieu, c'est l'esprit de la personne, son âme. Quand Dieu te dit tu es beau, ce n'est pas la parole physique dont il est en train de parler. On dit laisse le gars là. Parce que tu ne vas pas laisser le gars là, il y a les démons qui continuent à entrer dans ta chambre la nuit. Tu viens déranger un prophète ou une prophétesse en disant que vraiment, j'ai vu le serpent cette nuit, c'était grave. Il était géant comme ça, après il s'est même divisé. Quand on est peur de ton serpent, je te dis seulement qu'en fait, ton gars va bien. Et elle me répond de toujours. Il est là, papa. Il est là, il fait quoi là? On va y aller comme c'est comme ça. Au lieu de chercher Dieu qui t'amène à la sanctification, tu t'approches à un gars qui est lui-même possédé et possédant. Mais on a les codes de cas de gars possédants. Et même ils ont possédé. Il y a une malédiction qui pèse sur lui depuis peut-être 4 générations. Toi, si tu tombes dedans, slum, donne-lui de fermer, tu ouvres. C'est comment avec vous? Et la tête, qu'est-ce que vous faites à vos parents souvent là? Quand vous revenez ici, vous me trouvez, moi, vous ne pouvez rien me faire. Je ne suis pas ton père matériel, je ne suis pas ta mère matérielle, biologique là. Je te colle la vérité en te regardant dans les yeux.
Amen.
Je suis l'homme de Dieu, que j'ai peur de toi. Je te dis, ton cas là, c'est pourri. Ça a même cuit. Depuis longtemps. Maintenant, il y a les asticots dedans. Amen. Si tu ne sors pas du couloir là, on risque de t'enterrer vite. J'ai posé la question là ici un jour. Parce que quand on parle de souffrance, les gens croient que c'est la philo. Il n'y a pas de philosophie dedans. Obéis à la parole. Plus vite tu obéis à la parole, tu la mets en pratique. Tu passes les examens, tu sors d'une souffrance parce que tu passes à une nouvelle dimension, à une grâce que le Seigneur t'accorde. Il installe une nouvelle sécurité dans ta vie. C'est mécanique, c'est comme ça que ça se passe. Il y en a qui sont têtus. D'autres, c'est le mensonge. Ils mentent comme ils respirent. Tu ne sais même pas comment régler son corps. Elle est assise devant toi, elle te manque. Tu regardes comme ça, l'esprit s'indique que regarde comment elle te manque. Parce qu'il y a un cas. Vraiment, ça chauffe un peu. Ça chauffe ici. Je dis que ça chauffe pourquoi? La dernière fois que j'ai eu des rapports sexuels, c'était quand ma fille. Après un an, l'esprit s'est me donne la réponse. Elle manque. Parce que je veux traiter le problème, je te dis, cache. Parce que les souffrances que tu as là, que ça chauffe, parce qu'on a déposé le poison dans ton corps, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas le feu de l'esprit, ça chauffe le poison là-bas. En fait, je voulais t'expliquer que ma fille, tu as couché avec un sataniste, et c'est ça qui chauffe là. Quand vous dites qu'enlevez vos pieds des mauvais endroits, ne partez plus là-bas. La souffrance que Dieu a prévue était courte pour un petit moment pour toi. Petit moment, petite souffrance nyanga propre. Non, tu es venu ajouter ta part. Tu vas te connecter là où il ne faut pas se connecter. Tu crées les problèmes là où il ne fallait pas les problèmes. Et après, tu vas accuser Dieu. Parfois, il se retourne chez lui pour dire que, hein, j'ai fait quoi là-bas? C'est l'autre là qui est perdu depuis longtemps qui m'appelle. Dieu lui-même s'exclame à droite en disant souvent que Dieu. Il s'appelle lui-même. Que Dieu. C'est toujours moi qu'on accuse comme ça. Il est dépassé. Son père a parlé pendant 15 ans. Ça n'entrait même pas. Ça passait par-dessus la tête, ça traversait l'autre côté. Sa mère a parlé jusqu'à avoir la crise cardiaque, ça ne passait pas. Elle tombe sur un homme de Dieu qui dit la vérité avant de réfléchir, alors qu'elle réfléchit pour mentir. Tu commences à pas lui dire la vérité. Elle te regarde, elle a le même esprit de rébellion qu'elle a cultivé dans la maison. C'est dit que bon, le Seigneur me demande de te dire que vraiment, il faut arrêter la relation là. Tu vois comment elle proteste dans le regard. Elle est en train de penser fort dans sa tête que mais c'est quand même le gars qui me farote. Hein. Il me parle de quoi là? Et si je coupe ça maintenant, qui va alors payer le loyer là? Hein? C'est lui qui a acheté la robe la semaine-ci. Il charge même les téléphones. Souvent, c'est Mougou 1 ou Mougou 2. Vos souffrances, et je le dis toujours avec insistance, vont être réduites à partir du moment où vous aurez compris qu'il faut obéir à la parole et la mettre en pratique. Je pose souvent cette question à certaines personnes. Jusqu'où vous faut-il souffrir? Je dis bien, jusqu'où vous faut-il souffrir pour comprendre la marche avec Dieu? Je pose encore la question. Jusqu'où faut-il souffrir pour vous rebeller contre le diable, contre la mauvaise vie? Jusqu'où est-ce qu'il vous faut souffrir pour vous aligner sur la marche avec Christ? Et je vous ai déjà dit ici, c'est vrai pour tout le monde. Le diable vous fera toujours tomber là où vous avez des convoitises. C'est là-dessus qu'il s'appuie. Et tu deviens bête dès que tu vois les gros seins, tu vas devenir bête chaque fois. Ce sera comme ça. Tu es en train de marcher, tu es en train d'aller à l'ouest. Subitement, les gros seins passent à l'est. Tu changes de direction. Tanda. Et tu as une fille qui est sensible au shawarma. Dès qu'on va te présenter un shawarma, tu vas aller. Un shawarma. Un shawarma. Le plus, ça dit que le papa, on a dit un shawarma. Si tu es le genre qui attrape, on attrape seulement la voiture. Parce qu'il y en a ici, elle marche tan. Il n'y a pas de problème avec ce là. Pipi. Elle lance un coup d'œil, elle voit que la voiture est neuve, un 4x4. Elle soulève les cheveux comme ça. Tes convoitises. Le diable va toujours te tenir par là. Et ça va augmenter tes souffrances. Le diable sait que tu es sensible aux voitures. Une fille m'a dit une chose, je ne l'ai pas oublié. Ça fait plus de 8 ans, mais c'est resté à moi. Elle dit que mon frère, mon nouveau gars là, c'est quand même la bonne qualité. Quand je me suis assise dans la voiture, bien, j'ai senti la clim dans la voiture et les mousses. Mon cœur a changé. C'est comme ça que vous attrapez les serpents, les scorpions, les chauves-souris, les hiboux et tout ce qui va avec. Ça augmente vos souffrances, alors que la souffrance que Dieu lui a prévue était la petite quantité qui permet de voir sa fidélité, l'attachement à la marche à lui, le cœur tourné. Vous allez ramasser le genre qu'il ne fallait même pas avoir au programme. Après, vous venez nous déranger. Après ça, les démons viennent parler dans vos corps, alors qu'il ne fallait même pas les rencontrer. Donc, nous passions par là afin que les uns soient édifiés. Il disait qu'à travers la souffrance, nous apprenons à dépendre davantage de Dieu et de sa grâce que de nous-mêmes. Ce n'est pas nécessaire de développer, on a déjà parlé de cela ici. Quand vous lisez l'esprit de Jérémie 17, le verset 5 à 10, il est dit « Malheur à ceux qui... homme, l'homme pour appui. » Vous devez apprendre à miser sur Dieu. C'est à travers la souffrance qu'on mise sur Dieu. C'est à travers la souffrance qu'on éprouve la relation à Dieu. Et si tu peux y éveiller le matin, tu vas aller te prostituer. C'est là-dedans que tu vas alors prier pour voir que Dieu est capable de te donner les beignets et bien plus que ça. Pour dire que bon, maintenant alors le Père, c'est grave. Je ne mise que sur toi, fais quelque chose. Prouve-moi que tu es le Dieu vivant. Résous mes problèmes. Est-ce que je vais alors me livrer là-bas dans le mauvais camp? Parfois, on ne sait pas se livrer chez les gars. Tu as un frère qui est un franc-maçon jusqu'aux ongles. Ça se voit comme ça. C'est à lui que tu vas aller demander. Et là, tu sais que le gars est mauvais. Ou un oncle qui fait de très mauvais choses. Il est heureux chrétien, il s'en vante même. Demande à Dieu. Là, tu vas voir que Dieu est vivant. Tu vas avoir une rencontre imprévue. Un coup de fil inattendu. Et tu vas être farotté proprement, de manière surprenante et profondément. Je veux que ça remplisse même pour un mois. Amen. Pour ceux qui cherchent le travail, c'est la même chose. Tu vois que là, c'est compliqué. Tu t'es dit que papa, ici, là, trouve-moi quelque chose qui me permet de vivre proprement, dignement, selon tes voies. Comme toi, tu as prévu. Au lieu que j'aille mendier, me prostituer ou quoi que ce soit. Sors-moi de ce calvaire. Résous mes problèmes. Tu vas voir, il va te trouver une solution. Eux, fais les calculs. Il y a certaines filles, quand tu les trouves très concentrées, elles sont déjà en train de faire les calculs. Bam, bam. Bon. Elles ont un répertoire spécialisé. Il y a Benoît, il y a Jean, il y a Sylvain. On regarde un peu les gars qui ont l'habitude de jeter les graines. On picore un peu, mais on ne veut pas tomber dans le piège. Ouais, quand je suis foiré comme ça. Ah, j'ai un dragueur là. Ah, il y a Richard que je n'aime pas. Oh oui, il semble avoir l'argent. Subitement, un temps, j'avais appelé le premier coup de fil. Richard, bonjour. Ça va? C'est Ida. Tu es où? On dit quoi? En fait, je voulais te poser un problème. Je ne comprends pas cette affaire-là. Comment nos filles ont une telle capacité à s'humilier avec autant de facilité? Je suis traumatisé par ce genre d'attitude. Tu ne connais pas un gars. Vous n'avez rien échangé en dehors d'un numéro de téléphone. Tu l'appelles pour lui poser un problème financier. Mais le bêtisier a dépassé le Rubicon chez nous. Où est la dignité dedans? Quand un gars te voit comme une chose qui a besoin d'argent ponctuellement, c'est quoi? Il a gardé l'argent pour toi. Vous vous connaissez sur quoi même? Mais il faut arrêter le massacre. Misez sur Dieu. Ça fait que vous gagnez votre dignité, vous gardez votre dignité, vous préservez votre dignité, votre fierté. D'autres font mieux. Richard, c'est comment? Tu es là? J'ai envie de te rendre visite. Le gars se surprend même que ma fille a été rencontrée hier. Je n'aime pas encore placer le moyen, mais je vais me rendre visite. Il n'y a pas de problème. Il dit, viens. On dit que c'est l'occasion qui fait le larron. Parfois, il est marié, mais il regarde un peu la situation. Là, la femme n'est pas dans le secteur. Tant mieux. Oui, viens, 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 viens. Et quand il te dit, viens, il se dit, on peut regarder en profondeur de quoi il s'agit. On ne sait jamais. Les problèmes, vos difficultés, on s'en est en train de venir. Hein. Spirituellement, c'est déjà positionné. Comment elle vient voir Richard? Habillé comme il ne faut pas. La mini-jupe suspendue là où jusque là où je ne veux pas dire. Comme le balcon est naturellement rempli, on met alors 45% des arguments dehors et on marche en faisant trembler tout l'espace. Elle est fortement bipolarisée. Il y a du monde au balcon et le châssis est plein. Et elle arrive donc chez Richard comme ça, comme une marchandise offerte. Dans un conteneur. Tu comptes sur qui? Si tu t'étais mise à genoux là-bas, 5 minutes pourraient passer comme ça. Ton père qui est parfois chiche t'appelle. Tu vois, t'envoies un transfert. Hein? Mais oui, j'ai vu ça dans ce ministère. Parfois, c'est tant de problèmes, leur père qui est chiche ou leur mère qui est trop chiche. À cause de la prière, leur père devient gentil. Il reste comme ça, il pense que, oh vraiment, je n'ai pas dépanné ma fille depuis. Hein. Il ne sait pas poser la question de savoir que quand il ne dépanne pas sa fille, qui s'en occupe? Parce que les filles sont extrêmement vulnérables dans notre société. Mais au moins, parce que tu as commencé à chercher Dieu, Dieu a effacé les péchés passés. Allez, il t'ouvre la porte là. Ton père devient ton principal fauteur proprement. Il ne va pas chercher à voir les choses qu'il ne faut pas voir. Parce que tu auras juste compris qu'on les appelait Richard. Ou bien encore, je ne sais pas, Benoît. Tu te mets à genoux là, tu pries, tu supplies le Seigneur. Tu pries que vraiment toi-même me regarde. Je veux te suivre. Aide-moi à te suivre. Montre-moi. Ton père, l'Esprit Saint, le touche là-bas. Vang! Il ne comprend même pas ce qui lui est arrivé. Il t'appelle vite. Nathalie, tu es où ma fille? Hein? Je t'envoie 60 000 hein? Et je vais ajouter la semaine prochaine. La foi se pratique. Elle se vit. Et la marche avec Dieu, la souffrance avec Christ se vit. C'est comme ça que ça marche. Vous m'entendrez très souvent vous demander où est donc votre foi. Parce que qu'est-ce qui vous soutient dans la souffrance? C'est la foi. Qu'est-ce qui vous nourrit dans la persévérance? C'est la foi. Qu'est-ce qui nourrit la patience chez vous? C'est la foi. Qu'est-ce qui peut augmenter l'amour chez vous? C'est la foi. Parce que quand on a une véritable conscience de ce que Dieu est avec nous et qu'il est celui qui est le justicier, le seul, quand sa parole dit à moi la vengeance et la rétribution, on sait qu'on n'a pas besoin de se venger. Qui va s'occuper de ça? On sait qu'on n'a qu'à faire ce que lui demande, lui va s'occuper de tout le reste. Au lieu d'aller faire les livraisons à domicile. Il y a certains hommes, quand tu le vois marcher, ça me demande justement inquiétant. Il a des déhanchements très féminins. Tu te demandes où il passe souvent. Et le jour où tu l'attrapes, en train de réfléchir, il dit que, ah, ils ont l'argent à un docteur. Ils ont l'argent. C'est pourquoi tu es devenue une femme. Et il recrute déjà dans les lycées. Réduisez vos souffrances au strict nécessaire selon le plan de Dieu. Pas plus que ça. Autre chose qui est bon à savoir, Dieu peut aussi permettre que nous connaissions la douleur et l'affliction afin de nous rendre capables de réconforter et d'encourager ceux qui souffrent. Ça, c'est important. Parce que vous avez souffert, vous savez comment aider les autres face à la souffrance. Nous devons donc utiliser notre expérience de la douleur afin d'encourager et de fortifier les autres. Vous gardez parmi les passages bibliques, Romains 5, verset 3. Romains 5, verset 3. 2 Corinthiens 12, verset 9. Romains 5, verset 3. 2 Corinthiens 12, verset 9. Vous prenez aussi 2 Corinthiens 1, 4. 2 Corinthiens 4, le verset 7 à 12. 2 Corinthiens 4, le verset 7 à 12. Bien, nous continuons. Enfin, Dieu peut utiliser la souffrance du juste pour faire avancer la cause de son royaume et son plan rédempteur. Par exemple, toutes les injustices que Joseph a subies de la part de ses frères et des Égyptiens faisaient effectivement partie du plan de Dieu, qui était, n'est-ce pas, de les faire subsister dans le pays et de les faire vivre dans une grande délivrance. L'exemple par excellence de ce principe demeure celui de la souffrance de Christ, qui est le saint et le juste. Le passage qui permet de reconnaître cela, c'est Acte 3, le verset 14. Lisez, s'il vous plaît. Acte 3, le verset 14.
Acte 3, verset 14. Vous allez régner le saint et le juste. Et vous allez demander qu'on vous accorde la grâce
d'un maître.
Amen.
Amen. Jésus-Christ est le saint et le juste. Il a vécu la persécution, l'agonie et la mort afin que le plan rédempteur de Dieu soit pleinement accompli. Cela n'excuse évidemment pas la méchanceté de ceux qui l'ont crucifié. Mais cela indique comment Dieu utilise la souffrance du juste. Ce qui lui cause. Ce qui est, n'est-ce pas, la cause du peuple pécheur. Pour son propre destin et sa propre gloire. Ces deux compartiments qu'on a montrés. Dieu accepte que le juste souffre avec une fin précise. Mais cela ne justifie pas la méchanceté du méchant. Le méchant ne sera pas excusé parce que Dieu avait prévu que le juste devait souffrir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là?
Amen.
Ne comprenez pas. Dieu et la souffrance des croyants, c'est un autre compartiment qu'on veut développer. Le premier élément à, n'est-ce pas, à se rappeler que Dieu est partie prenante de nos souffrances. Même si Satan est le Dieu de ce siècle, il ne veut pas, il ne peut pas nous affliger ainsi des souffrances sans la permission de Dieu. Dans sa parole, Dieu a promis qu'il ne permettra que, pas que nous puissions être tentés au-delà de nos forces. On a lu ça ici mercredi. 2 Corinthiens 10, verset 13. N'est-ce pas? Très bien. Qu'est-ce qu'on a dit mercredi? On a dit, à cause de 2 Corinthiens 10, verset 13, quand vous souffrez, ne dites plus, vraiment, je suis fatigué, hein? J'en ai ras le bol. La souffrance que tu subis est une souffrance que Dieu a revue. Et il ne laisse pas que la charge là soit au-dessus de tes forces. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. Ne dites plus que, vraiment, même si vous ne dites pas, ne pensez même plus. Vraiment, je suis fatigué. Vraiment. Le sorcier me dérange tout. Il y a des gens ici qui sont tombés. Il y a de mauvaises rencontres. Vraiment, on fait parfois de très mauvaises rencontres. Tu rencontres une femme, ta vie devient un enfer. Tu tombes sur un homme, ta vie devient un enfer. Et certains, l'erreur a été commise en profondeur. C'est-à-dire que tu tombes sur quelqu'un, ta vie devient un enfer, mais tu t'en rends compte dans le mariage qui est dedans. Tout le monde va chanter par là encore, ripipip, par là encore, ripipip, tu es content. Les cornes du démon sont apparues dedans. Le ripipip par là encore est fini. On avait bloqué tous nos côtés à cause de toi. Oh, tu es alors dedans. Une épreuve terrible. Parce que quand le mariage que tu vis est un enfer, tu es un enfer. Et c'est terrible. Mais encore l'autre qui est en train de se balader, qui cherche les mougou 1, mougou 2, mougou 3. Il y a la possibilité de s'échapper. Mais tu dois dormir dans la même maison que ton ennemi. Tu es dans une logique d'ennemi rapproché. Et il faut gérer ça. Quel management complexe. D'autres sont dans des managements extrêmement complexes, d'une autre nature. C'est ton père, ta propre mère qui est à un haut niveau de sorcellerie. Tu ne veux pas rester comme ça, elle vient compliquer. C'est des choses terribles. Or, face à ce genre de preuves, Dieu a prévu. Il est au courant avant toi que ta mère est une sorcière. Il était avant toi au courant que ton père était un sectaire. Il savait. Puisqu'avant que tu naisses, il savait déjà les dossiers de ta mère. Avant que tu naisses, il était au courant des dossiers de ton père. L'autre que tu as épousé là, qui est rosé-christien, mais Dieu était au courant que tu épousais un rosé-christien. Il te regardait parce que dès le départ, toi tu allais te marier, tu ne lui as pas demandé. Il a fait comme nous on dit non. Il a avalé la salive. Ok. Go ahead. Vas-y. On va voir où tu vas aller. Comme tu veux tout faire sans moi. Mais puisque la religion vous a amené à croire que vous avez d'autres vies et en dehors de votre vie, il y a Dieu. Vous avez les endroits où vous allez adorer Dieu. Et quand vous avez fini d'adorer l'endroit, il y a Dieu là. Vous le laissez là-bas. Donc, si ici là c'est la limite de l'église, j'ai mon pied droit chez Dieu et le pied gauche hors de Dieu. Donc, tous les problèmes que tu avais là, tu veux te marier, ah, tu n'as pas besoin de demander à Dieu. Il n'y a pas besoin de demander à Dieu. Je l'aime beaucoup. Il y a d'autres filles qui ont des arguments bêtes, voilà, genre tu peux même la gifler. Tu lui dis que, laisse le couloir là.
J'aime le gars là, trop. Il est beau, il me plaît.
C'est parce qu'il est beau que sa beauté va entretenir la relation là. Ou bien c'est ça qui va enlever le satanisme qu'il y a sur lui. Ou bien toutes les malédictions qu'il y a dans sa famille depuis 3 générations. Bien, c'est ça qui va faire qu'il n'est pas un mauvais mari. Il y a des hommes ici dehors, il n'a pas de paix, il n'a pas fait du mal à sa femme le matin avant de sortir. C'est le genre-là que tu es allé épouser. Il y a d'autres filles. Elle a seulement la paix. Car il y a les engueulades. C'est que s'il n'y a pas le feu entre vous là, l'amour pour elle, c'est quand les bâtons et les machettes traversent. Quand tu la trouves, elle son mari en pression et karaté. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'ils sont quand même des enfants dans leur cauchemar. Donc, parfois, il y a un moment, ils se rencontrent dans le lit, que quand ça rencontre, il y a quelqu'un qui dort à côté. Mais tu es en enfer. Tu as un genre de mari là que. Vous êtes mariés. Vous avez ensemble 5 enfants. Mais il tient à te montrer comment tu ne vaux rien en utilisant les autres femmes. C'est un enfer. Mais tu n'as pas demandé à Dieu. Si tu avais demandé à Dieu, Dieu avait dit que quitte le couloir là, je vais te montrer ton mari. Première condition, quitte d'abord, rompe la relation. Je vais commencer à dire que. Mais j'aime beaucoup, hein. Mais pour les femmes, alors, pour savoir être stupides, elles sont souvent qualifiées. Elles aiment beaucoup. Elles sont très nombreuses à ressentir avant de réfléchir. Elles ressentent d'abord, elles réfléchissent après. C'est pourquoi elles sont si nombreuses chez les menteurs et avec les menteurs. Puisque elle ressemble d'abord, quand le mensonge est romantique, elle a trouvé le gars. On lui a bien menti pour 3 tonnes au moins. Mais les femmes ont besoin de quoi? Elles ont besoin d'être en sécurité. Elles ont besoin d'être écoutées. Elles ont besoin d'être aimées. Et c'est à cause de ça qu'elles croient que les hommes ont les mêmes besoins. Quand tu montres à un homme que tu l'aimes, ça ne vaut rien. Je vous dis, ça ne vaut rien. Je suis qualifié pour expliquer ça. L'homme sent que tu es intéressant quand il voit le respect dans ton comportement. L'amour ne fait rien à l'homme. C'est le respect qu'il attend de toi. Regardez comment un enfant de 3 ans exige le respect. Garçon, alors que sa grande sœur n'a pas ce genre de problème. Un enfant de 3 ans, garçon, ta propre mère, tu lui manques de respect, tu vas voir sa réaction. Il a déjà l'autorité qui est génétique chez lui. Alors que les filles ont même âgé, genre, ah, porte-moi le sac. Vous faites, ah, vraiment, porte-moi. Elles ont besoin qu'on s'occupe, le garçon est nerveux, alors on porte les. On met les escaliers, lui, il dit que laisse-moi, je monte là-bas, maman, je monte. Vous ne savez pas lire la génétique spirituelle. Tu es entré dans un mauvais tchouki. Sors de là. Sors de là, même si vous avez 10 enfants ensemble, c'est pas ton mari, c'est pas ton mari. Vous n'allez pas vivre ensemble plus longtemps que ça. L'enfer a déjà duré 20 ans, ça a cuit. Quand on te regarde même, tu es déjà seulement l'ombre de toi-même. À l'époque, quand on voyait le produit, Amen. Quand maintenant on regarde, on se demande même si c'était toujours ça. Et le bon gars qui voulait t'épouser, il a le plan de Dieu. Parfois il te regarde et il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? Ce n'est pas Dieu qui a fait. Elle n'avait pas consulté Dieu au moment là. Tu étais venu toquer. Elle n'a pas demandé à Dieu. Elle n'a pas compris que c'est toi. Et j'ai vu des femmes, elles peuvent rester regrettées 30 ans après. Et que jusqu'à 30 ans après, elles restent regrettées. Elle est mariée. Elle a d'autres enfants. Mais elle regrette que vraiment j'avais barré Benjamin. Qu'est-ce que j'avais fait? Mais j'ai dans la mariée, elle a des choses comme ça, qu'est-ce que j'avais fait? J'ai dit que je connais vos dossiers. Et je vous exhorte fortement à quitter les couloirs qui vous amènent à souffrir. Sortez de ces mauvais couloirs obscurs et biscornés. Prenez la ligne droite. Bien. Dieu a également promis que la souffrance et la persécution concourent au bien de ceux qui l'aiment et qui obéissent à ses commandements. C'est bien précisé dans Romains 8, le verset 28. Joseph a reconnu cette vérité dans sa propre vie de souffrance. Joseph a souffert. Et l'auteur de l'épître des Hébreux démontre comment Dieu utilise les événements pénibles de nos vies pour notre avantage et à notre connaissance. Les références que je vous donne dans ce sens sont 2 Corinthiens 10, le verset 13, Romains 8, le verset 28, 2 Corinthiens 10, verset 13. Romains 8, le verset 28. Genèse 50, le verset 20. Et Hébreux 12, verset 5. Qui plus est, Dieu a promis qu'il se tiendra près de nous dans nos souffrances et qu'il nous accompagnerait dans la vallée de l'ombre de la mort. Oh, ce passage est magnifique. Lisez-nous Psaume 23, le verset 4, et Ésaïe 43, le verset 2. Psaume 23, le verset 4, Ésaïe 43, le verset 2.
Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien. Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure.
Amen.
Amen.
L'autre passage.
Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les feux, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Amen.
Que cette parole s'accomplisse dans vos vies.
Amen.
Il le fait par le Saint-Esprit, qui nous réconforte dans toutes nos afflictions, tel que c'est précisé dans 2 Corinthiens 1, le verset 4. Il envoie à chacun de ses enfants un lot suffisant de grâce pour qu'il puisse supporter les épreuves de la vie. Vous pouvez le vérifier aussi dans 1 Corinthiens 10, le verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Enfin, il ne faut pas oublier que le Seigneur Jésus prend part à nos souffrances. Lorsque nous invoquons, nous l'invoquons, nous trouvons en lui un souverain sacrificateur, compatissant, qui à lui-même fait l'expérience d'épreuves et de souffrances semblables aux nôtres, aussi diverses soient-elles. Hébreux 4, le verset 15. Lisez ça. En effet, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs dont il s'est chargé. Nos souffrances sont donc apaisées grâce à celles qu'il a subies pour nous. J'ajoute à lire Hébreux 4, verset 15, Ésaïe 53, verset 4 et Ésaïe 53, verset 5. Donc, vous prenez directement Hébreux 4, verset 15, vous enchaînez Ésaïe 53, verset 4 à 5.
Hébreux 4, verset 15 dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Amen. »
Que ce modèle soit dans le modèle du croyant, celui qui est face aux épreuves et ne commet pas de péché.
Amen.
Notre propos va finir sur un sous-thème intitulé « La victoire sur nos souffrances ». Parce qu'effectivement, c'est ce que nous devons avoir, c'est la victoire sur nos souffrances. Nous devons maintenant aborder cette dimension importante. Lorsque nous passons par des épreuves et que des afflictions s'imposent à nous, que pouvons-nous faire pour les gérer de façon à en triompher? 1. Considérons d'abord les multiples raisons pour lesquelles les êtres humains souffrent. On a parlé de cela. Et en quoi ces raisons nous concernent? Si nous pouvons identifier une raison spécifique, nous devons y appliquer la conclusion appropriée. Croyez d'abord que Dieu pense vraiment à vous. Ce que je viens de dire là, certains ne réalisent pas la gravité de cette affaire. Croyez d'abord que Dieu pense vraiment à vous. Beaucoup de chrétiens n'ont pas conscience de ce que Dieu pense à eux. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Ils ont l'impression qu'ils sont des ornements sur la planète Terre, qui sont venus accompagner les autres. Leur vocabulaire est même d'ailleurs symptomatique de cette inconscience de ce que Dieu pense à eux. Quand tu leur demandes comment ça va, « Ah, on est là, non ?» On pousse notre... Pour ça, on met la canne, c'est même déjà une bonne route. On vous accompagne, non? Dans leur mission sur terre, c'est accompagner les autres. D'autres disent, et ce n'est pas loin de ça, on vous regarde, non? Troisième expression symptomatique d'une profonde ignorance de la relation à Dieu. On va faire échec mental, échec comportemental, avec une base solide d'échec spirituel. Là, tu sens que les gens ont besoin de délivrance. Mon frère, regarde-moi, ma soeur, regarde-moi bien. Quand tu dis on va faire comment, tu as besoin de délivrance. Il n'y a aucun doute. Tu n'as pas compris que Dieu pense à toi. Dieu connaît ton dossier. Il connaît ta situation. Dieu peut. Parce que l'Esprit de Dieu qui est disponible, qui est l'Esprit Saint, peut. Il est disponible pour toi. Tu n'as qu'à te mettre dans les conditions pour le recevoir. Quand tu dis on va faire comment, n'est-ce pas qu'on vous accompagne, on vous regarde, non? Tu as oublié que Dieu pense à toi, il connaît ton dossier personnel. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Ta présence sur terre n'est pas un accident. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Non. Dis au voisin que Dieu pense à moi. Le voisin n'a pas bien compris. Tu es sûr que le voisin a compris? C'est quand je veux vérifier que le voisin a compris que tu ne parles pas. Dis bien au voisin que Dieu pense à toi. Donc, vous avez contaminé, même les enfants, ils sont devenus taquins dans ce ministère. Croyez d'abord que Dieu pense vraiment à vous. Quelle que soit la gravité des événements que vous vivez. Les passages qui permettent d'avoir de la compréhension de cela sont Romains 8, 36, 2 Corinthiens 1, le verset 8 à 10. J'ai dit Romains 8, 36, 2 Corinthiens 1, le verset 8 à 10. Jacques 5, verset 11. Et vous avez aussi 1 Pierre 5, le verset 7. La souffrance ne devrait jamais nous conduire à nier l'amour de Dieu ou à le rejeter comme Seigneur et Sauveur. Donc ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé. Trouvez-vous, tournez-vous vers Dieu dans la prière et cherchez sa face. Attendez qu'il vous délivre de l'affliction. Référence par rapport à ça. Psaume 27, le verset 8 à 14. Psaume 27, le verset 8 à 14. Ainsi que le psaume 40, le verset 2 à 4. Ainsi que tout le psaume 130. Je voulais donner une clé pendant qu'on y est. Vraiment, pour les gens qui ont des afflictions particulières, Dieu a des personnes qu'ils connaissent. C'est-à-dire que quelqu'un pratique la sorcellerie sur toi. Il la pratique de jour comme de nuit, de façon visible comme de manière invisible. Je vous donne le secret. Vous mettez son nom dans le psaume 109. Vous n'avez pas compris. Ouvrez le psaume 109. Je vais vous montrer. Comme ça, vous allez apprendre à demander à Dieu. Qu'est-ce qui est écrit? Lisez-moi le psaume 109, je vais vous montrer quelque chose. Quand vous avez déjà identifié de manière claire un ennemi qui ne veut pas lâcher prise, s'il fait que vous harcelez, mettez son nom dans le psaume 109. On va voir si Dieu là n'est pas vivant. Lis petit.
Dieu est ma louange. Le Dieu de ma louange, ne te tais point. Car il ouvre contre moi une bouche méchante.
Il, si le sorcier là s'appelle Jacob. Jacob ouvre, s'ils sont trois, Jacob, Annie et Pascal. Tu mets leur nom là-bas pendant 7 jours, on va voir si le Dieu là est pas vivant. Parce qu'il y a des sorciers qui sont d'une arrogance insoutenable. Il y a des sectaires qui sont d'une arrogance insoutenable. Tu les livres à Dieu à travers le psaume 109. Mais venez pas emporter le sentimentalisme là que vraiment, le psaume là est Dieu. Hein? La souffrance que le diable t'inflige n'est pas Dieu. Quand il t'empêche d'avoir les enfants, il gâte ton foyer, il empêche que tu te maries, il te vole l'argent, il détruit la santé de tes enfants, il détruit ton mari, il détruit ta femme. Ce n'est pas Dieu. C'est vous qui avez écrit le psaume 109.
Non.
Utilisez ça bien.
Amen.
C'est un psaume de guerre. venir me déranger. Vous-même, vous pouvez prier et avoir des résultats. Comme ça, la souffrance va baisser. Ça va être transféré sur lui. Et l'Esprit Saint va choisir la souffrance avec laquelle lui sera puni. Vous oubliez que la parole est claire. Parce que vous n'avez pas lu Nahum. Lisez Nahum 1, le verset 1 à 2. Dieu se venge de ses ennemis. Et les ennemis des enfants de Dieu sont les ennemis de Dieu. Autre élément. J'ai dit Nahum 1, verset 1 à 2. J'ai dit de vous tourner vers Dieu dans la prière. Cherchez sa face. Attendez qu'il vous livre, qu'il vous délivre de l'affliction. J'ai dit aussi, attendez-vous à ce que Dieu vous donne la grâce nécessaire pour supporter l'affliction, jusqu'à ce que vienne la délivrance. Le psaume, non, le 1 Corinthiens 10, verset 13 dit, ainsi que 2 Corinthiens 12, verset 7 à 10. Souvenez-vous toujours que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est ce que dit Romains 8, le verset 37. Et vous avez aussi Jean 16, verset 33. Romains 8, verset 37, Jean 16, verset 33. La foi chrétienne ne repose pas sur la disparition des faiblesses. Et ce que je vous dis là, j'espère que ça va rester dans vos cœurs. La foi chrétienne ne repose pas sur la disparition des faiblesses et de la souffrance, mais plutôt sur la manifestation de la puissance divine à travers la faiblesse humaine. Je relis ce passage là. La foi chrétienne ne repose pas sur la disparition des faiblesses et sur la souffrance, mais plutôt sur la manifestation de la puissance divine à travers la faiblesse humaine. 2 Corinthiens 4, le verset 7 permet de cerner cela. Cinquième recommandation, lisez la parole de Dieu et plus particulièrement les psaumes qui réconfortent dans les moments d'affliction. Quels sont les psaumes qui réconfortent dans les moments d'affliction? Psaume 11, psaume 16, psaume 23, psaume 27, psaume 40, psaume 46, psaume 61, psaume 91, psaume 121, psaume 125 et le psaume 138. Je reprends. Psaume 11, 16, 23, 27, 40, 46, 61, 91, 121, 125, 138. Sixième recommandation, recherchez la révélation et le discernement qui viennent de Dieu en ce qui concerne votre situation spécifique à travers la prière, la lecture de la Bible, l'utilisation de l'Esprit Saint ou le conseil d'un croyant fidèle et mûr. Septième recommandation, si votre souffrance est d'une nature physique, suivez les étapes énumérées dans l'enseignement qu'on vous a donné sur la guérison. C'est disponible sur le site internet, sur la guérison divine. Huitième et dernière recommandation, lorsque vous souffrez, rappelez-vous la prédiction de Christ qui dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Vous trouverez cette référence, c'est Jean 16, 33. Regardez devant vous, dans l'attente du moment où Dieu essuiera toute larme de vos yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Amen.